notre quatrième cours sur Perekoun Bet, chapitre 52. De quoi on parle dans le chapitre 52? Chapitre 52, on est une suite directe pour le chapitre 52, après le chapitre 51. On est en train d'essayer de définir la Shrina. Qu'est-ce que c'est la Shrina? Donc on a posé la question de base qu'on a posée au début du chapitre 51. On a dit que d'un côté, on nous explique, on nous dit que Akadosh Baruch Hu est omniprésent, Akadosh Baruch Hu est présent partout. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de différence entre en haut, en bas, je veux dire, Kadosh Baruch Hu est partout, comme c'est écrit Melo Kola Aret Kvodo. Et d'un autre côté, on avait dit, il y a plusieurs références qui nous disent que Akadosh Baruch Hu se trouve dans certains endroits plus que d'autres. Par exemple, dans le Kodesh HaKodashim, on nous dit qu'Akadosh Baruch Hu était plus présent qu'ailleurs. D'accord? Donc on a a priori ici une contradiction apparente. Qu'est-ce qu'on a expliqué? On a expliqué que pour répondre à cette question, on va donner un exemple de l'homme. Qu'est-ce qu'on a expliqué chez l'homme? Alors, je ne vais pas trop m'arrêter dessus, puisque de toute façon, ce n'est pas sur ça qu'on va s'arrêter aujourd'hui. Pour répondre à cette question, on a amené un exemple de chez l'homme. On a dit que chez l'homme, la manière comment la Neshama transmet au corps l'énergie, il y a deux vecteurs, deux grands vecteurs. Il y a le vecteur qu'on a appelé le vecteur du Etsem, le vecteur de l'essence, d'accord? D'accord? Et il y a le vecteur du Giloui, le vecteur du développement. On a expliqué que le vecteur...
Dévoilement,
développement. Donc on a expliqué que le vecteur du Etsem, c'est quoi le vecteur du Etsem? Chakol. Le vecteur du Etsem, c'est le vecteur de l'essence. Ça veut dire, c'est le fait que il n'y a pas un membre dans le corps qui est plus vivant que l'autre. Ça ne veut pas dire que le pied est plus vivant que la tête. Même si ils n'ont pas la même fonction. Mais le Etsem, c'est quoi? Le Etsem, c'est la vie, c'est l'essence. Et donc ça, c'est un premier vecteur. C'est le fait que tous les membres, il n'y a pas un membre qui peut dire, moi, j'ai plus de vie que l'autre. Après, chacun va définir la vie comme il veut. D'accord? Chacun des membres va définir la vie comme il veut. Mais pourtant, chacun vit de la même manière que l'autre. Ça, c'est le vecteur du Etsem. Mais le vecteur du Giloui, dans le vecteur du dévoilement, qu'est-ce qu'on a expliqué? On a expliqué que là, il y a une différence. Que là, le cerveau, on a expliqué, c'est le centre nerveux. C'est lui qui va redistribuer l'énergie aux différents membres du corps. Et naturellement, il ne va pas redistribuer la même quantité d'énergie à tous les mêmes membres du corps. Il y a des membres qui vont recevoir plus, des membres qui vont recevoir moins, selon ce qu'ils ont besoin. Selon ce qu'ils ont besoin et selon leur développement. Par exemple, un enfant, au tout début, il développe beaucoup moins d'énergie dans son cerveau que dans le reste de son corps. Après, progressivement, il va développer son cerveau, et plus son cerveau va se développer, et plus son cerveau pourra recevoir cette énergie. Donc, on a conclu qu'il y avait deux catégories, deux vecteurs d'énergie. Il y avait le vecteur du Etsem, le vecteur de l'essence, et le vecteur du Giloui. Ce sont deux vecteurs qui sont totalement indépendants. On est d'accord? Il a expliqué que c'est la même manière par rapport à la Shrina, par rapport à la question qu'on a posée. Qu'est-ce qu'on a posé comme question? Bonsoir. La question qu'on a posée, on a dit, comment c'est possible? D'un côté, tu me dis que Akadosh Baruch Hu est omniprésent. De l'autre côté, tu me dis que Akadosh Baruch Hu est plus présent dans certains endroits que d'autres. Une contradiction. C'est quoi la réponse? La réponse est très simple. C'est qu'il n'y a pas de contradiction. Comme on va développer encore aujourd'hui. Que si tu te focalises par rapport au vecteur du Etsem, par rapport au vecteur de l'essence, alors là, effectivement, Akadosh Baruch Hu est omniprésent. De la même manière qu'on ne peut pas dire qu'un membre est plus vivant que l'autre, de la même manière on peut dire qu'une parcelle du monde, d'accord, va recevoir la lumière d'Akadosh Baruch Hu plus que notre parcelle. Ça, c'est par rapport au vecteur du Etsem. Etsem. Non, le vecteur du Etsem, c'est l'essence, celui dans lequel il n'y a pas de différence. Mais par rapport au vecteur du Giloui, par rapport au vecteur du dévoilement, quand on dit qu'Akadosh Baruch Hu, il se dévoile plus, il se dévoile moins, là, il y aura une différence entre ces différents niveaux. Alors, vous savez quoi? On va passer directement au tableau que j'ai préparé. On va essayer
On a dit qu'il y avait un tableau ce soir.
D'accord? Ouais. On va essayer de décortiquer. J'ai bien suivi monsieur à l'oral, mais je l'enverrai Bézrat Hachem par un... Alors.
Excuse-moi, ils ont
Alors. Vous avez? Donc on a le titre, de notre tableau, c'est Shrina, le centre nerveux de l'émanation divine. D'accord? Le titre du cours, c'est Shrina, le centre nerveux de l'émanation divine. Donc de quoi on parle ici? Qu'est-ce qui nous dérange? On a bien compris que si on parle du Etsem, si on parle de l'essence d'Akadosh Baruch Hu, l'essence d'Akadosh Baruch Hu est omniprésente. Donc ce tableau, on peut le déchirer par rapport à l'Etsem. Il n'y a pas de tableau, il n'y a pas de niveau, il n'y a pas de droite, il n'y a pas de gauche, il n'y a rien. Par rapport à l'essence d'Akadosh Baruch Hu, une synagogue et une boîte de nuit, c'est la même chose. D'accord? Un vivant et un mort, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. Le fait même qu'il est là, ça veut dire que c'est déjà une existence d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas de différence. Donc, notre tableau ne parle pas du tout de l'essence. Il ne peut pas parler de l'essence. Notre tableau va parler de la Shrina. C'est quoi la Shrina? La Shrina, c'est l'émanation. Qui dit l'émanation dit qu'il y a une certaine quantité. Alors, j'ai essayé de réfléchir comment je devrais faire ce tableau. Puisque en vérité, quand on analyse ce qu'on a fait depuis le début du chapitre 51, on va se rendre compte qu'en vérité, on a trois notions différentes. Comme vous les avez dans le tableau. Donc la première notion, c'est les quatre mondes, les quatre perceptions, Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya, qu'on va expliquer. La deuxième notion, c'est les quatre couches dans la Torah, Pshat, Remez, Draj, Sod. Et la troisième notion, c'est la structure des séphirotes. Donc on a parlé des trois choses, mais on se rend compte que finalement ces trois notions se rejoignent. Et que le premier niveau dans la première colonne correspond au premier niveau de la deuxième colonne, etc. Vous allez voir comment on va comprendre beaucoup de choses avec ce tableau, Bezrat Hashem. Enfin, moi, en faisant le tableau, ça m'a permis de comprendre encore plus. On comprend beaucoup de choses parce qu'on va voir qu'il y a une structure ici. Je veux commencer, puisque normalement, on devrait commencer de gauche à droite. D'accord? Comme un juif, il fait toujours le contraire. Donc, je veux commencer par la colonne de droite. En hébreu, on lit de droite à gauche. C'est pas dans l'ordre qu'on a développé dans le Tania. Je vais commencer dans cet ordre-là, vous allez voir que ça va nous aider à mieux comprendre. On en a parlé longtemps, plusieurs fois, de la structure commune des séphirotes. Ça vous dit quelque chose? La structure commune des séphirotes. On a dit que c'est la structure des hommes, c'est la manière comment l'homme est structuré, c'est la manière comment Dieu a structuré son monde, et c'est la manière comment chaque parcelle de l'humanité est structurée. Dans chaque chose de l'humanité, on peut retrouver cette même structure. Après, des fois on peut la voir, des fois on peut pas la voir. Mais la structure...
Ah,
la clé. Elle est où, cette clé? Elle est où, la clé? Tiens.
Il
n'y a pas de problème.
Alors,
donc, la structure. D'accord? Donc, on a la structure commune des séphirotes. La structure commune des séphirotes, on va la séparer ici en quatre... Vous voyez, j'ai séparé ça ici en quatre niveaux qui correspondent également aux quatre lettres du nom d'Akadosh Baruch Hu, Yud Kei Vav Kei. Avec la pluie, il est brillant, va bouger.
Oh là là, là là.
La Shrina, ah. Bonsoir. Donc, on commence par la colonne de droite. La structure commune des Sphirotes. Ça va correspondre aux quatre lettres du nom d'Akadosh Baruch Hu, Yud Kei Vav Kei. Premier niveau. Première ligne, c'est Chochma. C'est quoi Chochma? Chochma, c'est l'intelligence innée et profonde. Vous voyez, j'ai structuré le tableau d'une manière qui a le grand titre, et après il y a un sous-titre, et après il y a un texte. D'accord? J'ai essayé de faire le caractère différent, pour que vous compreniez pourquoi c'est un caractère différent. C'est la même chose dans tout le tableau. Donc, Chochma, c'est le grand titre. C'est quoi Chochma? C'est l'intelligence innée et profonde. Et, on développe encore un peu plus, c'est quoi? C'est le centre nerveux qui est source de toute idée. Ça veut dire quand par exemple j'ai une idée qui me vient, je suis en train de chercher, tac, j'ai une idée qui me vient, d'où elle vient cette idée? Je ne l'ai pas encore développée, je ne l'ai pas encore décortiquée, j'ai une idée qui vient, d'où elle vient? Chochma. D'accord? Et de la même manière...
C'est pas le flash.
D'accord? Si, c'est aussi le flash.
C'est le flash aussi.
C'est le début de l'idée. Ce principe-là de Chochma, on peut l'appliquer partout. Par exemple, Dieu a commencé à créer le monde, avant qu'il commence à créer le monde, avant qu'il développe le monde. Il y a eu une idée de créer le monde, on commence. Cette idée s'appelle comment? Chochma. Bien que ça n'a rien à voir avec une idée à nous. C'est le concept. Le concept, c'est que Chochma, c'est le centre nerveux. C'est le début. C'est de là que tout va démarrer. Mais si tu vas gratter à Chochma, tu vas rien trouver. Tu vas voir de la lumière, tout ce que tu vas voir. Il n'y a rien. Mais c'est le centre nerveux, c'est la source. C'est comme le cerveau. Le cerveau, c'est uniquement quand le cerveau se développe qu'on va voir ce qu'il avait dans la tête. D'accord? Mais tant qu'il ne s'est pas développé, on ne sait pas ce qu'il a. Ça, c'est Chochma. Première étape. Pardon?
Ça vient d'où?
Chochma, ça vient du mot Chacham?
Ou non, pas le mot.
J'ai pas compris.
Chochma, parce que l'essence, là on passe pas l'essence là. La
non.
Chochma.
Non, l'essence, on parle pas du tout de l'essence là.
Non.
C'est le centre nerveux. Ah, bonne question, d'où ça vient?
Voilà.
Alors, quand on arrivera à la dernière case, je répondrai à ta question. Donc Chochma, c'est le centre nerveux. Ensuite on a Bina et Da'at. Là je les ai regroupés. Pourquoi je les ai regroupés? Parce que Bina et Da'at ont le même but. C'est l'intelligence développée puis mise en pratique. Bina, c'est le développement de la pensée. Et Da'at, c'est quand on va essayer de mettre en pratique cette pensée, de la transmettre au midot, de la transmettre à notre trait de caractère. Mais c'est la même chose. Finalement, Bina et Da'at, c'est le même but, c'est de développer l'intelligence. Chochma, c'est l'intelligence telle qu'elle est innée et profonde. Bina et Da'at, c'est l'intelligence qu'on va développer, puis mettre en pratique. Donc ça c'est le développement intellectuel. C'est-à-dire que lorsque je prends une idée, je la prends, je la décortique, ou bien lorsque Kadosh Baruch Hu, dans mon exemple, Kadosh Baruch Hu a décidé de créer le monde, et qu'après il commence à citer comment il va créer son monde. C'est-à-dire, bon, alors on va voir des malachis, on va voir ci, on va voir ça, il commence à rentrer dans les détails. Là, on est dans le niveau de Bina et Da'at. Troisième niveau, c'est quoi? C'est les Midot. Donc les Midot, c'est les attributs divins, et c'est les traits de caractère d'Akadosh Baruch Hu. Enfin, c'est une structure commune. Donc, cette structure-là, on va la retrouver partout. On la retrouve chez nous, on la retrouve dans la structure comme Akadosh Baruch Hu a créé le monde, on la retrouve partout. D'accord? Attendez. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette structure? Dans cette structure, on a, vous voyez, j'ai essayé de faire un petit tableau là. Donc on a Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod. Vous avez remarqué qu'il y en a deux qui sont à droite, deux qui sont à gauche et deux qui sont au milieu. On est d'accord? Donc, on commence par... Oui, en fait, j'ai fait en français, j'ai fait... Bon, pas grave, c'est trompé. C'est le contraire, faut pas prendre le... il faut inverser le tableau. Parce que là, le Chesed, il est à gauche dans le tableau. J'ai pas fait attention. J'ai l'habitude d'écrire en hébreu.
Oui, mais quand on le regarde comme ça, il est face à nous, on peut penser que si on le il est à droite pour lui, quoi.
Mais non, c'est pas bon là. Parce que là, j'ai écrit en français, donc j'ai écrit de gauche à droite. Et j'ai commencé par Chesed. C'est le contraire normalement.
Chesed,
il est à droite.
Chesed, il est à droite.
Et là, il est à gauche.
D'accord.
Bon, vous inversez. Ok. D'accord. Alors. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod. Chesed, c'est synonyme de bonté. On l'a expliqué longuement la semaine dernière, on a lu dans le Zohar directement. Gvura, c'est synonyme de rigueur. Et l'harmonie entre les deux, c'est quoi? C'est Tiferet, d'accord? La Mida de Yaakov Avinu, qui est l'harmonie entre les deux. Netzach, c'est la victoire. Donc encore une fois, c'est lié avec la bonté, c'est lié avec l'envie d'aller, vers l'avant.
C'est la jambe droite.
D'accord. Hod.
Mais je comprends pas. Pourquoi la victoire? Je vois pas ce que c'est.
Netzach, c'est l'envie de gagner. Lorsqu'une personne a envie de gagner, tu es devant un obstacle, tu as envie de le surmonter, tu as envie d'avancer. Ça, c'est lié à la bonté, c'est lié au fait de vouloir avancer, pas vouloir se retracter.
D'accord.
Hod, c'est l'humilité, donc c'est le contraire. Pour être humble, il faut forcément se retracter. D'accord. Et enfin, Yesod.
Alors pourquoi le...
D'accord, deux secondes, s'il te plaît. Ouais. Yesod, c'est la jonction entre les deux. Yesod est synonyme de communication. D'accord. Donc là, vous avez la structure des traits de caractère, d'accord, de nos traits de caractère. Tous nos traits de caractère sont ici. Et comme on expliquera par la suite, toutes les halakhot sont basées sur ce tableau-là. Dans toutes les halakhot, c'est basé d'un dosage. Enfin, on va doser un petit peu de chacune de ces sphirotes-là que je viens de dire ici, pour construire nos halakhot. Donc, en dessous, on a écrit la construction de soi et de ses traits de caractère.
C'est-à-dire qu'ils sont tous, dans chaque trait de caractère.
Ça, encore une fois, c'est commun. Ça veut dire que dans chacun des niveaux, partout, vous allez retrouver ça. Chochma, Binadat, et les Midot, et ensuite, Malchut, que je vais expliquer tout de suite. Ça, partout, vous allez le trouver. Dans la manière comme Akadosh Baruch Hu crée le monde, dans l'éducation, vous allez retrouver ça, dans notre structure personnelle, partout, on retrouve ça. C'est la structure de l'homme. La structure, c'est comme
du
ça.
Monde.
Du monde. De tout ce qu'on peut comprendre, c'est comme ça. Et enfin, la dernière case, c'est quoi? Malchut. C'est quoi Malchut? Malchut, c'est la transmission. D'accord. Malchut, c'est la transmission, la royauté, c'est la transmission, la communication vers le monde inférieur. Et là, on a la réponse à ta question, Yves, tout à l'heure. Puisque finalement, dans le système comme Akadosh Baruch Hu, il a créé, Akadosh Baruch Hu a créé un système que chacun des mondes va communiquer avec celui qui est en dessous. Tu te rappelles qu'on a expliqué la semaine dernière que le Malchut du monde supérieur va devenir la Chochma du monde inférieur. D'accord. Donc ça, c'est la structure commune. C'est une structure qu'on retrouve partout.
Oui, il y a quand même un début.
Oui,
ça,
le début c'est Chorma de Atzilut. Et après on a un enchaînement. Atzilut. Alors justement, on va y arriver. D'accord. Maintenant, on repasse à la colonne de gauche. Et vous allez voir qu'on aura les mêmes quatre colonnes qui vont correspondre. D'accord. Chorma, Binadat, Lemidot et Malchut. Même chose. On commence par Atzilut. On en a parlé plusieurs fois. C'est quoi Atzilut? Atzilut, c'est le monde de l'émanation.
Tu commences
maintenant là? Ouais, je reprends. C'est quoi Atzilut? Atzilut, c'est le monde de l'émanation. C'est l'étape dans laquelle les choses sont encore en degré d'émanation, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas encore développées. C'est encore totalement spirituel. Donc, émanation spirituelle, j'ai écrit en dessous les grandes tzadikim. Ça, c'est la perception des grandes tzadikim. Ça, c'est l'équivalent de Chorma. Ça veut dire que c'est l'intelligence innée et profonde, ça veut dire que c'est quelque chose qui est très profond et qu'on n'arrive même pas à développer. Face au niveau d'en dessous, c'est quoi? Bria. Traduction de Bria, c'est quoi? Création, innovation. Vous voyez, avant on était dans l'émanation spirituelle, et là cette émanation-là va se transformer en création et innovation. Donc on va commencer à développer. c'est la même chose que le deuxième niveau qu'on a dit tout à l'heure. L'intelligence développée, puis mise en pratique. C'est la même chose. Ça, c'est qui c'est qui a ce niveau-là? C'est les tzadikim et les malachim. D'accord? Une certaine partie, donc certains malachim. On a expliqué longuement dans le chapitre 41. 40, 41. Le monde en dessous, c'est quoi? C'est le monde de Yetira. C'est quoi Yetira? Yetira, c'est création, formation. C'est-à-dire qu'avant, c'était l'innovation, on commence à innover le concept. Après, petit à petit, une fois que le concept, tu l'as déjà bien, il est déjà bien clair dans ta tête, bah, tu commences à le mettre en pratique. Ça, ça correspond clairement au trait de caractère. Trait de caractère, c'est déjà quand tu commences à mettre quelque chose en pratique. Là, c'est plus un développement dans ton cerveau. C'est la formation, on va former. Ça, on a expliqué que la majorité des anges sont à ce niveau-là, ont ce niveau de perception. Et perçoivent les choses de cette manière. Et enfin, le dernier niveau, c'est quoi? C'est Asiya. Asiya, création, matérialité. La majorité du peuple juif a cette perception. C'est-à-dire que nous, quand on nous demande d'imaginer une mitzvah, d'imaginer un concept, à quel niveau on peut l'imaginer, quel niveau de perception on peut avoir, uniquement le quatrième niveau, qui correspond au quatrième niveau que j'ai tout à l'heure, malchut, la transmission, la communication vers le monde intérieur, c'est-à-dire on est le plus bas possible. D'accord ?
C'est aussi l'ordre de la tfila, ça, qu'on fait.
Oui, bien sûr.
Création, formation.
Même ordre de la tfila. D'accord ? On avait développé dans le chapitre 40.
En malchut, c'est une grosse sphirate.
Bien sûr.
Et pourtant, elle est tout en bas.
Oui. Attends, j'ai pas fini. Maintenant, on va faire la case du milieu. Après, on va garder le tableau à côté. Et on va faire dans les mots du Tania. Alors,
chaque fois
on descend, c'est la même chose. Dans le tableau du milieu, qu'est-ce qu'on a? D'accord. On a les, vous voyez, c'est des notions qu'on a déjà vues, ça. Mais maintenant, quand on a dans un tableau, on comprend un peu mieux. Donc, la colonne du milieu, c'est quoi? C'est les quatre couches dans la Torah. On a expliqué longuement il y a deux semaines le concept des couches dans la Torah. Pshat, Remez, Drash, Sod. Que c'est des couches, d'accord? C'est des couches différentes dans la Torah. C'est pas des sens différents, mais c'est des couches. On va plus loin, plus loin, plus loin. On a expliqué comment les couches étaient intercommunicantes. Bon, alors on va commencer par la première. La première, c'est Atzilut, c'est Chorma. Ça veut dire que c'est l'étape dans laquelle tout est encore à l'étape de l'émanation. C'est encore inné, c'est encore profond, c'est pas développé. Ça correspond à quelle couche de la Torah? Ça correspond à la couche du Sod. C'est quoi le Sod en clair? C'est le Zohar. C'est le secret de la Torah. C'est les secrets de la Torah, tels qu'ils sont encore profonds, tels qu'ils sont encore cachés. Et c'est les secrets qui peuvent être perçus que par les grands tzadikim. Vous voyez, quand on suit la ligne, bien que c'était trois concepts différents, vous voyez, quand on suit la ligne, on voit que les trois concepts s'imbriquent l'un dans l'autre. Ensuite, deuxième couche de la Torah, alors je les prends dans le sens inverse qu'on dit d'habitude, c'est Drash. C'est quoi le Drash? Drash, on va expliquer ici, c'est on va développer aujourd'hui longuement, c'est la Gemara. Mais quelle partie de la Gemara? Tout ce qui ne rentre pas dans le cadre halakhique. C'est dans la Gemara, la conclusion halakhique, c'est seulement, il y a une conclusion. Dans la Gemara, on passe beaucoup de temps, pas forcément autour d'une conclusion halakhique. On est en train de développer, des fois juste pour expliquer qu'est-ce qu'il voulait dire, ça n'a rien à voir avec une conclusion halakhique. Ça rentre dans quelle catégorie? C'est le Midrash. Donc ça, c'est l'intelligence développée. Ça veut dire que c'est pas encore lié aux traits de caractère, rien à voir avec les traits de caractère. On n'est pas encore dans les traits de caractère, on est encore dans l'intelligence, puisque traits de caractère, ça a déjà à voir avec un comportement. Là, il n'y a pas de comportement, il n'y a pas de halakha. On est encore dans l'intelligence. Ça, c'est quoi? C'est Drash. Donc, Drash est égal à Binada, développement intellectuel. Drash est égal également à Bria. C'est-à-dire création, innovation. Là, ça commence déjà à prendre forme. Prenez un texte de la Gemara, même s'il n'y a pas toujours de développement halakhique, mais on parle de concept physique, matériel. Pas comme dans le Zohar, qu'on parle d'un concept qui est abstrait. Là, on parle d'un concept qui est physique, puisqu'on est déjà dans l'étape de Bina Da'at. On développe déjà un concept, on est capable de développer ce concept avec des mots physiques et de le comprendre. Troisième étape, c'est quoi? Remez. C'est quoi Remez? D'accord? Remez, l'allusion. C'est les implications halakhiques qui sont tirées du texte. La majorité des halakhot ne sont pas écrites explicitement dans la Torah, mais on les retrouve en allusion dans le texte. Donc le remez, c'est quand on va prendre le concept, on va déjà avoir une certaine implication. Une implication halakhique, donc ça correspond au trait de caractère. C'est-à-dire qu'on va commencer à avoir une certaine implication dans la vie de tous les jours. Une implication halakhique. Ça, c'est le niveau de la majorité des anges. La majorité des anges ont cette perception. Ils arrivent à avoir la perception au niveau de la formation. Donc c'est déjà encore un peu spirituel. Et le dernier niveau, c'est quoi? C'est le pshat. C'est quoi le pshat? Le pshat, c'est le sens simple, c'est le chumash. C'est-à-dire c'est le sens le plus bas possible. Alors le plus bas, mais justement, ce qu'on va expliquer aujourd'hui, c'est qu'en vérité, c'est le plus haut possible. parce que c'est celui qui est capable de descendre le plus bas. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Donc le pshat, c'est le sens simple, c'est le chumash. D'accord ? C'est le sens simple. Mais n'oubliez pas que pour arriver au pshat, quand Akadosh Baruch Hu a donné la Torah, d'accord ? Avant d'arriver au pshat, il a dû passer par sod, drash, remez et pshat, puisqu'on a expliqué que c'est des couches. Donc pour arriver au pshat, il a dû passer par sod, drash, remez et pshat. C'est pour ça quand on nous dit que tout ça a déjà été donné forcément en Mont Sinaï, c'est parce que pour arriver au pshat qu'on connaît, le pshat c'est la dernière couche, c'est le plus bas. De la même manière que dans le tableau de droite, on comprend bien que pour arriver à la transmission, il faut d'abord se construire intellectuellement, après les traits de caractère, et c'est seulement après qu'on peut transmettre.
Je comprends pas.
La seconde. Ça veut dire que c'est seulement une fois que tu t'es construit que tu peux transmettre. Et bien de la même manière, le pshat, c'est le plus bas niveau, on va expliquer aujourd'hui ce que ça veut dire, c'est le plus bas niveau qu'il peut avoir dans la Torah, c'est le chumash. Donc le pshat, c'est le niveau de la majorité du peuple juif. C'est pour ça que le pshat, le sens simple du chumash, est au niveau de tous. Il n'y a pas un qui peut dire que c'est pas à son niveau. Et le pshat est égal à la transmission, ça veut dire que c'est le pshat qui va nous permettre de communiquer avec ce monde. Mais ça, on va développer dans le cours d'aujourd'hui.
Mais au remez, ce qu'on étudie. C'est dit le sod, c'est le zohar, le drash, c'est le...
Alors le remez, c'est le monde de Yetira. D'accord, c'est le monde de la formation, c'est quand les choses commencent à prendre une implication. Donc le remez, c'est le monde de la halakha. C'est lorsque les choses commencent à prendre une implication halakhique. Et c'est l'équivalent de la troisième case, c'était les midot, c'était les traits de caractère. Traits de caractère, c'est aussi une implication concrète. Pardon ?
Alors,
ici, il va appeler ça la Mishnah. Dans le langage de il va appeler ça la Mishnah. En vérité, c'est pas exactement la Mishnah. Quand on dit la Mishnah, ça veut dire toutes les implications halakhiques. Implication halakhique est égale à traits de caractère, d'accord ? Est égale à Yetzira, création, formation. Maintenant qu'on a compris ça, je pense qu'on pourra aller vite dans le texte. Ah. Alors on va reprendre.
On pourra aller vite. C'est toujours après. Aïe aïe aïe.
Alors page 146, tout en haut de la page. Quelle heure il est ? Bon, très bien. Est-ce que vous avez des questions déjà avant d'avancer ?
Oui.
Oui.
Juste au niveau. Bon, on a vu les niveaux. Et maintenant je voulais savoir, par exemple, quand tu fais le chumash qu'on voit ici en bas dans le tableau.
Oui.
Ce qu'on peut dire comme conclusion, que par exemple quelque chose comme le chumash, la Torah ne peut être donnée que aux juifs. Est-ce qu'il y a une horizon d'être.
Bonne question, très bien. Ce que tu dis, c'est que le chumash ne peut être donné que dans le monde ici-bas.
Voilà.
Ce que tu es en train de dire.
C'est ça.
Il ne peut pas être donné aux anges.
Oui, je suis là au même niveau.
Très bon point. Oui, bien sûr.
C'est ça.
C'est pour ça que je les ai mis au même niveau.
D'accord.
Tout ce que j'ai mis au même niveau, ça veut dire que c'est réellement au même niveau.
D'accord.
Sauf, il y a une exception, comme ce qu'il a dit tout à l'heure, rappelez-moi, Yosef, c'est ça ? L'exception qu'il a dit, c'est que, vous avez bien vu, la colonne de droite, c'est la structure commune des sphirotes. En fait, puisque c'est une structure commune, c'est-à-dire que là, j'ai expliqué cette structure-là par rapport à notre tableau, mais en vérité, dans chacun des éléments du tableau, on peut retrouver à l'intérieur de chaque élément, cette même structure. Chorma, Binadat, d'accord ? Les attributs d'Akadosh Baruch Hu, enfin les traits de caractère, pardon, et Malchut, Yudke et Vavke. D'accord ? Mais là, j'ai expliqué par rapport à la structure de ce qu'on est en train de chercher aujourd'hui. Bon, alors dans les mots.
Et par contre, on peut trouver une similitude par rapport aux 5 niveaux de l'âme ou pas du tout ?
Bien sûr. Ouais, mais ça, j'ai pas touché encore, ça, je voulais pas trop compliquer. Gav Misham. Mais Gav Misham. Ah, c'est le concours qui va...
Donc,
tout en haut de la page 146, vous avez gardé le tableau bien à côté de vous. Donc, Vegam Misham, Nimshach, Atalmud, Shelefanenu. Donc, rappelez-vous, c'est quoi la Shrina ? La Shrina, c'est le centre nerveux. Donc, la Shrina, en fait, c'est la première ligne. Shrina, c'est Chorma, c'est Sod, c'est Atzilut. C'est ça. Ensuite, après chaque fois qu'on va descendre, dans chacun, puisqu'on a expliqué qu'il y a une structure commune dans chacun, dans tous ces mondes-là, hein. Donc quand après on va descendre, à chaque fois dans chacun des mondes, et ça on va développer aujourd'hui, il y aura à chaque fois Chorma, Binadat, Lemidot et Malchut. Et à chaque fois, la Chorma sera la Shrina locale. Mais la Shrina de toutes les Shrinas, ça veut dire le centre nerveux de toute l'humanité, c'est quoi ? C'est la Chorma de Hatzilut qui est égale au Sod. Première ligne de notre tableau, on est d'accord ? C'est quoi la première ligne de notre tableau ? Hatzilut, Sod, Chorma. Ça, c'est le centre nerveux de toute l'humanité. Après, on aura des centres nerveux locaux. Enfin, c'est comme, on pourrait donner un exemple en informatique. Vous avez un processeur général qui lui envoie des ordres, et après, dans chacun des membres, il va avoir chacun un processeur local qui va essayer de faire ce qu'il peut avec cette énergie. Et c'est déjà un processeur local. Et le processeur général, c'est la première ligne de notre tableau. Alors, Vegam Misham, Nimshach Atalmud Shelfanenu, וכמו שכתוב לאל בשם התיקונים, שבעולם הבריאה, מאירות ומשפיעות שם חוכמתו ובינתו ודתו של אינסוף ארוך הוא, Birdesh yuchlu aneshamot v'amalachim shem ba'alegul v'tachlit lekabel hashpa mibkhinat chabad elou. Alors, qu'est-ce qu'il dit ici? Il explique ici que donc là on passe déjà à la deuxième ligne. La deuxième ligne, on a dit, c'est quoi? C'est la Gemara. C'est quoi la Gemara? Donc là, il amène une preuve du Zohar, qui explique que la Gemara est liée déjà à la deuxième étape, donc c'est plus bas que le Zohar. Et c'est là-bas que Akadosh Baruch Hu va commencer à matérialiser des concepts pour que l'homme puisse les comprendre. Puisque si on laisse les choses à l'étape du Sod, comme on l'a expliqué, même si nous, quand on lit des fois le Zohar, on croit qu'on comprend, en vérité, on comprend rien du tout. Ce qu'on comprend, c'est walou, c'est rien du tout. Alors que la Gemara, ce qu'on comprend, c'est quelque chose. Après, on peut mieux comprendre, mais c'est quelque chose. C'est déjà un concept matériel. La deuxième ligne de notre tableau, qui est la Gemara, d'accord? Pourquoi Kadosh Baruch Hu va progressivement en développant? C'est parce que Kadosh Baruch Hu veut qu'on comprenne. Kadosh Baruch Hu veut que ça puisse rentrer dans notre cerveau. Donc c'est pour ça qu'on va commencer à descendre. Velachen, Nimshach Misham Atalmud, Sheu Gamken Prinat Chabad, She Atalmud Utame Alachot Alborian. Veata Amim, Em Prinat Chabad. Bon, ça je l'ai dit, j'ai expliqué à l'oral, c'est pour ça que je vais vite. Donc c'est quoi le Talmud? Le Talmud, c'est les raisons des halakhot, mais qui n'ont pas forcément de lien avec une implication halakhique. D'accord? Donc c'est pour ça que là, on est seulement à la deuxième ligne de notre tableau. C'est quoi la deuxième ligne de notre tableau? Rappelez-vous, la première ligne, c'était l'intelligence profonde. Deuxième ligne, c'était l'intelligence développée. Mais pas encore, on ne la met pas encore en pratique. Elle n'est pas encore liée au trait de caractère. C'est pour ça qu'on est encore seulement à la deuxième ligne. Ça, c'est la Gemara. Ensuite, Ve'a halachot atzman, en mimidotav shel ensof baruchu. Les halachot elles-mêmes, donc la Mishnah, elles sont liées aux midot d'Akadosh Baruchu. C'est quoi les midot? Ah, là on passe déjà à la troisième ligne. Shehen, chesed, din, rachamim. Vous suivez? Troisième ligne, vous voyez, si vous prenez la troisième ligne à droite, on a vu chesed, vura, tiferet. Pourquoi? Ah, c'est intéressant comme elle explique la halacha. Il a de Morazakan, il dit, qu'est-ce que c'est une halakha? Pardon. Qu'est-ce que c'est une halakha? Une halakha, c'est, on va te présenter un cas, et on va te dire, est-ce que c'est assour ou est-ce que c'est moutar? Mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que c'est assour ou moutar? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi quand on dit que quelque chose est assour et quand on dit que quelque chose est moutar? Mis à part le fait que j'ai pas le droit de le faire, mais je parle dans la globalité, dans le sens profond des choses, ça veut dire quoi que j'ai pas le droit de le faire? Et ça veut dire quoi que j'ai le droit de le faire? Je donne un exemple. J'ai ici un verre de coca, tu me dis que j'ai le droit de le boire. Ça veut dire quoi, j'ai le droit de le boire? Ben, c'est sûr, j'ai le droit de le boire, mais par rapport à Kadosh Baruch Hu, ça veut dire quoi dans le but général d'Akadosh Baruch Hu? Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu va avoir du fait que je vais boire ce verre? Et qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu va avoir du fait que je ne vais pas boire ce verre? En quoi ça rentre dans le plan général d'Akadosh Baruch Hu? Et là, ce qu'explique l'Admor HaZaken, c'est que les halakhot, c'est les traits de caractère d'Akadosh Baruch Hu. De la même manière que nous, dans notre vie, ça, je voudrais qu'on comprenne bien ça, parce que l'Admor HaZaken va développer ça longuement. De la même manière que dans notre vie, c'est quoi notre trait de caractère? Notre trait de caractère, c'est eux qui vont déterminer ce qu'on va aimer, ce qu'on ne va pas aimer, ce avec qui on va communiquer, les instants dans lesquels on va essayer d'être victorieux, de gagner, les instants dans lesquels on va être plutôt humble. C'est les traits de caractère qui vont former, d'accord, notre vie de tous les jours. C'est ce qu'on va décider en d'autres termes, la colonne de droite, colonne de gauche, ce qu'on va rapprocher et ce qu'on va éloigner. On est d'accord? Colonne de droite, colonne de gauche, ce qu'on va rapprocher, ce qu'on va éloigner. Explique l'Admor HaZaken. C'est la même chose par rapport au halakhot. Quand on te dit par exemple que Kadosh Baruch Hu te dit ce verre-là, t'as pas le droit de le boire. D'accord, je sais que j'ai pas le droit de le boire, mais dans le sens profond des choses, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que ça, Kadosh Baruch Hu, il te demande de l'éloigner. Pourquoi il te demande de l'éloigner? Parce que Kadosh Baruch Hu, il pense que de ce verre qui est devant toi, tu pourras rien amener de bon. Donc puisque tu peux rien amener de bon, tu dois l'éloigner, rigueur. Vous voyez ce que je veux dire? Je répète. Toutes les halakhot qu'on a, c'est ce que l'Admor HaZaken va expliquer, c'est un mix, enfin, c'est on va marier, d'accord, rassembler, on va rassembler plusieurs de ces midot, par exemple, et l'Admor HaZaken va expliquer, regardez. Des fois, on te dit que tu peux manger quelque chose. Des fois, on te dit que tu dois manger quelque chose. C'est quoi la différence entre tu peux et tu dois? Ben, c'est pas la même chose. Tu peux, ça veut dire, si je veux, je peux, mais je suis pas obligé. Quand tu me dis tu dois, ça veut dire que je suis obligé de le faire. Et des mitzvot, quand on te dit si tu veux, tu peux. Tu veux prendre un verre de coca, bechava, prends-le, shakon les mitzvaro. Tu veux pas boire de coca, ne bois pas de shakon les mitzvaro. D'un autre côté, il y a d'autres mitzvot, dans lesquels on te dit, il faut mettre les tefillin. D'accord? C'est pareil dans les mitzvot négatives. Dans les mitzvot négatives, d'accord, il y a des choses qu'on va te déconseiller, et il y a des choses qu'on va t'interdire. Il y a des choses qu'on te dit, bon, c'est une chumra, si tu peux mieux faire, c'est mieux, etc. Il y a des choses qu'on va dire, ça c'est assur, interdit. Et Edmond Razakan nous a expliqué que qu'est-ce qui fait que, comment ça se fait qu'il y a des choses qui sont permises, des choses qui sont interdites, pourquoi ça se passe comme ça, mis à part le fait qu'on n'a pas le droit de les faire, mais je veux dire, quel est le sens profond? Ben, le sens profond, c'est que de la même manière que dans nos attributs, dans nos traits de caractère, d'accord, on a compris que dans nos traits de caractère, on a la bonté et la rigueur. Pourquoi t'as pas que la bonté? Pourquoi t'as la rigueur aussi? Ben, parce que ça dépend. Et des fois on a besoin de bonté, des fois on a besoin de rigueur, ça dépend de la situation. Des fois on a besoin de marier les deux. Des fois on a besoin de doser, d'avoir un peu plus de bonté que de rigueur, des fois c'est le contraire. C'est ce qui fait le spectre de notre vie. Explique l'Admor HaZaken, c'est ce qui fait aussi également le spectre des Halakhot. C'est les Midot d'Akadosh Baruch Hu. C'est le fait qu'Akadosh Baruch Hu dit, avec ça tu peux t'approcher de moi, d'accord? Et si tu fais ça, tu vas t'éloigner de moi. Donc ne fais pas ça. Midot positive, Midot négative. Ça c'est les attributs d'Akadosh Baruch Hu, c'est les Midot d'Akadosh Baruch Hu. Dans les mots. Alors, Ve'alachot Atman, je ne sais pas quelle ligne on est. Voilà, on est à la huitième ligne. Si je vous répète le principe que j'ai dit au début du chapitre 52, c'est un chapitre qui est particulièrement compliqué. Je pense que c'est le chapitre le plus compliqué du Tanya. Donc si vous ne comprenez pas, il faut m'arrêter. Même si j'ai essayé de faire un tableau, mais c'est pas dit que vous avez compris. Il faut m'arrêter. Est-ce que c'est clair jusqu'à présent?
Oui. Pourquoi il n'y a pas d'équivalence humain là-dedans, dans celui-là?
Dans?
Par exemple, là, t'as les tzadikim, là, t'as la majorité des peuples juifs, oui. Là, t'as personne. T'as les anges, mais c'est pas des... Pas des
oui, âmes. Mais ça, j'ai compris, oui, mais ça, c'est... là, on parle de perception.
Oui, alors, faut bien pouvoir passer de la halakha, quand même.
Oui, alors, nous, par la halakha. Non, passe par là.
Oui, mais il n'y a pas d'âme.
Oui, bien sûr. Non, encore une fois, ce que j'ai expliqué, c'est comme ça. C'est que nous, la perception qu'on peut avoir, notre perception est limitée au niveau de la Sia. C'est-à-dire que même si on va étudier le Zohar, mais on va étudier le Zohar avec une perception de la Sia. Écoute bien ce que je suis en train de dire. Mais tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que même si nous, on va étudier le Zohar, peut-être on va comprendre certaines choses, on va étudier la Gemara, mais on va l'étudier avec une perception de la Sia. C'est-à-dire que ni on pourra comprendre le fond des halakhot, ni on pourra comprendre le fond de la Gemara, ni on pourra comprendre le fond du Zohar, parce qu'on étudie ça avec des lunettes de la Sia.
Les grands
tzadikim, eux, ils ont accès à toute la chaîne. C'est pour ça qu'on t'en veut pas si tu comprends pas le Zohar, à 100%. Et même si tu crois que tu comprends rien du tout.
Enfin, alors, c'est qui les grands tzadikim et les tzadikim? C'est quoi la différence?
Elle est grande tzadikim et elle est tzadikim.
Oui, alors.
Avraham Avinu, par exemple, c'est un grand tzadik. Moshe Rabbeinu, c'est un grand tzadik. Ça y est, les tzadikim standards.
Et les tzadikim de la Mishnah, tu veux dire, c'est tzadikim?
Non.
Ils sont grands tzadikim.
Les tzadikim de la Mishnah, certainement que eux, c'est des grands tzadikim. Mais le texte qu'ils ont développé, c'est un texte qu'ils ont développé déjà au niveau de Bria. Mais la majorité des tzadikim de la Mishnah, on les retrouve dans le Zohar. Tu sais ça ou pas? C'est pratiquement les mêmes noms, les mêmes auteurs.
Ah oui.
Ils ont développé deux textes. Ils ont développé un texte au niveau du Sod, un texte au niveau du Drash, un texte au niveau de Hatzilut, un texte au niveau de Bria. C'est deux textes différents. C'est deux couches différentes. C'est pas contradictoire. C'est deux couches différentes. La Mishnah s'est descendue plus bas. On essaye de matérialiser le concept. Oui.
On est bloqué à un niveau. Est-ce que les grands tzadikim sont bloqués à leur niveau ou est-ce qu'ils peuvent arriver à se mettre à notre niveau?
Le tzadik, il peut aller à tous les niveaux.
D'accord.
Mais il verra tous les niveaux avec des lunettes de Hatzilut.
Okay.
Ça veut dire que finalement, le tzadik ne pourra pas avoir la même perception du pshat qu'un juif simple. D'accord. Lui, il verra des lumières là-bas, alors que nous, on voit un texte simple, un texte simple, d'accord? C'est pour ça que quand, par exemple, la Gemara vient nous dire, celui qui dit que David, le roi David a fauté avec Bathsheba, il se trompe. Pourquoi il se trompe? C'est écrit.
Ouais, oui, perception simple,
c'est que nous, on voit selon le pshat. Mais quand tu vas avec d'autres lunettes, tu vois d'autres choses. Donc, selon la Gemara, on peut pas comprendre comment une personne peut penser que David a fauté.
On pourra jamais comprendre, vu qu'on n'est pas à l'ordre.
Comment Rachid a écrit un Rachid pour nous? Très bonne question.
On arrive à comprendre qu'il est pas fauté.
On dit que Rachid...
Mais Rachid, il a les deux.
On explique en chassidoute que, écoute bien ce que je veux dire, que la force du commentaire de Rachid, c'est que Rachid, dans son commentaire, a été capable de mettre les quatre niveaux dans son commentaire. Ça, c'est extraordinaire. Ça veut dire que tu peux trouver du sod dans Rashi, tu peux trouver du drash, d'accord? Donc ça veut dire de l'agmara qui n'a pas d'implication à l'Afrique, tu peux trouver du remez, tu peux trouver des implications à l'Afrique, et tu peux trouver du pshat.
Comme la Torah.
C'est extraordinaire.
Comme la Torah.
Comme la Torah, ouais. Mais dans Rashi, c'est plus fort, c'est plus flagrant dans Rashi. C'est énorme dans Rashi. C'est pour ça que tout le monde, les chachamim, c'est extraordinaire l'importance qu'ils donnent à Rashi. Extraordinaire. Oui, sur Rashi, c'est... Bon. Alors, on avance.
C'est un français encore.
Alors, Vega, donc on est à quelle ligne? 8e ligne.
Ils nous l'ont dit, les Américains. Eux, ils ont Apple, nous on a reçu.
Dis ici.
On a Rachid aussi.
Beaucoup de Rachid.
Alors il dit, on s'arrêtait à Ve'alachot Atzman, c'est ça? Ve'alachot Atzman, hen mimidotav shelen savaruchu. Les halachot, elles, sont déjà liées au troisième niveau. C'est les midot d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Quel rapport entre les halachot et les midot? Shehen chesed din rachamim. C'est quoi les midot? Les midot, c'est la bonté, la rigueur, et rachamim, si on a dit, c'est la miséricorde, ça veut dire l'harmonie entre les deux. C'est quoi? Shemehen mimshach ha'eter ve'isur. C'est des midot d'Akadosh Baruch Hu, c'est elles qui vont déterminer que ça c'est permis, ça c'est interdit. Ve'a kacher. On va te dire, ça c'est kacher. Kacher, ça veut pas dire que tu dois le prendre. Kacher. On va te dire, va pas soul. On va te dire, d'un autre côté, ça c'est pas soul. C'est quoi la différence entre assour et pas soul?
Pas soul, c'est quelque chose qui a été cachère, qui est devenu hein? Pas soul.
C'est quoi la différence entre assour et pas soul, oui? On va commencer par assour. C'est quoi assour?
Assour, c'est interdit. C'est-à-dire que pas soul, ça a été autorisé à un moment donné et ça s'est
par exemple, moi, je veux un exemple.
Pas un sefer, ça s'est altéré. Hein? Et il est devenu pas soul. Voilà.
Par exemple, un sefer Torah. Tu voilà. Préserves, tu deviens pas soul. D'accord.
Il a été kadosh.
Très bien. Alors que assour, c'est quoi?
Assour, ça a toujours été assour.
Interdit.
Très bien. Et c'est quoi la différence entre moutard et kasher?
Moutard et kasher. Moutard. C'est pas sur le même niveau.
Attends.
Moutard, c'est permis et kasher.
C'est autorisé.
Kasher, c'est pas pareil.
C'est la même chose. C'est exactement la même chose.
C'est la même chose.
Kasher. Kasher, c'est l'équivalent de pasoul. C'est-à-dire c'est quelque chose qu'on a rendu caché, mais qui aurait pu être pasoul. D'accord? Et assour, c'est le contraire de moutard.
Une bête qu'on a tuée et qu'on a avec la shrita.
Exactement.
Et autres,
on dit que la shrita rend caché ou la shrita rend pasoul. C'est-à-dire que c'est lié à un acte de l'homme. Alors que moutard et assour, c'est pas lié à un acte de l'homme. C'est à Kadosh Baruch qui a dit permis ou interdit. Et on a déjà quatre catégories là.
Donc un poisson autorisé, on dit qu'il est moutard, on dit pas qu'il est caché.
D'où elles sont liées, deux secondes. D'où elles sont liées ces quatre catégories? D'où elles viennent ces quatre catégories? Ces quatre catégories viennent des attributs d'Akadosh Baruch. C'est un dosage. Un dosage de Chesed, Gvura, Netzar, Od. Il n'est pas là pour nous expliquer le dosage. Mais il nous dit simplement que c'est basé sur ça. Donc c'est pour ça que les halachot sont liés aux midot. Vers Chiyuv, vers Patour. Ah, ça n'a pas parlé encore. Chayav et Patour. C'est quoi Chayav?
Chayav, obligation.
C'est une obligation. Et Patour, c'est quoi?
C'est
qui? Quelle différence avec Pasoul et Kacher?
Non mais ça c'est toujours lié à un état de l'homme.
Bien.
Parce que s'il est malade, il peut plus mettre les tefillines, donc il est.
Chayav et Patour, c'est lié à l'homme. Est-ce que l'homme a l'obligation ou l'homme n'a pas l'obligation? Alors que Pasoul et Moutard, c'est lié à l'objet. Est-ce que l'objet est cachère ou l'objet n'est pas cachère? Donc encore une fois, vous voyez, il y a beaucoup de détails. Que moi, je suis Betikuni, mais tous ces détails d'où ils viennent tous ces détails-là? Qu'est-ce qui détermine qu'un objet est cachère, Moutard, Pasoul, etc.? C'est les midot d'Akadosh Baruch Hu. De manière générale, on retrouve toujours la même dynamique. Droite, gauche. Ce qui est bon, ce qui est pas bon. Toujours. D'accord? Mais après, on a un dosage qui fait que certaines choses sont permises. Certaines choses sont obligatoires. Qu'est-ce qui fait ce dosage-là? C'est un dosage de chesed et gvura. Ou beit lapshut. Bon, là, on a un peu de terme Kabbalah. Tu es prêt, Yaakov? Yaakov, c'est le kabbaliste de service. Yaakov, il est au sod.
Ouais, là, on est...
Non, parce que c'est évident pour lui, tout ça. Il a vu le tableau, il a... Ça y est. Il a vu le tableau, il a compris la première ligne. Les lignes d'après, il a pas compris. Il dit, je comprends pas, moi, c'est quoi, avec mes lunettes de sol. Alors, Beiklapshut Malchut de Atsilut, de Malchut de Bria, Mitlabeshet Bechal Kodesh Kodashim de Yetira, Shehi Chabad de Yetira. Bon, on complique un petit peu, là. D'accord, oui, on va compliquer un petit peu. Rappelez-vous, qu'est-ce que je vous ai expliqué? Je vous ai expliqué que la colonne de droite, on a dit qu'il y a une structure commune. Ça veut dire que vous allez prendre, on va reprendre la colonne de gauche. Atzilut, Bria, Yetira, Asiya. C'est quatre niveaux de perception dans la création des mondes. Ce qu'on est en train d'expliquer ici, c'est que dans chacun de ces quatre niveaux, on va retrouver la structure intégrale qu'on avait à droite. C'est une structure qui dit que tout commence par, par le développement intellectuel, et après ça va se traduire dans les traits de caractère et dans la transmission. Alors, qu'est-ce qu'on a expliqué tout à l'heure? Ça, c'est la question de Yves. Ce qu'on a expliqué, c'est que le Malchut des Hatzilut, ça veut dire le dernier niveau du monde de Hatzilut. Vous avez le tableau Hatzilut. D'accord? Hatzilut, c'est 1-1 dans le tableau Excel. Là. 1-1. D'accord? Oui? Qui c'est qui a l'habitude sur les tableaux de voir les tableaux Excel? 1-1. Enfin, plutôt
B1.
B1-1-1. Non, c'est quoi dans les tableaux Excel? A c'est, hein, A c'est les colonnes ou A c'est les...
Non, A c'est les colonnes. Hein, c'est les colonnes.
Ah, A c'est les colonnes. Donc là, on est A2 alors. C'est ça? Hatzilut, c'est A2. Très bien. Alors, Hatzilut, c'est en train d'expliquer ici l'Admor HaZaken, c'est que le Malchut de Hatzilut, le dernier niveau du... Parce que, rappelez-vous, dans Hatzilut, on a toute la structure intégrale qu'on a vue à droite. Toute la structure des Sphirot, on la retrouve également dans Hatzilut. Donc le Malchut de Hatzilut va devenir... D'accord? Va devenir le Chorma de Bria. En d'autres termes, je vais expliquer un peu mieux ce que ça veut dire. Ça veut dire que quand on vous dit que le monde entier est basé, que la structure du monde est basée sur Yudke Vavke, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si tu prends l'intégralité du monde, tu peux la découper en quatre. Yudke Vavke, Atilut, Gra, Yetira, Asiya. Mais après, dans chacun des mondes que tu vas rentrer, et dans chacune des sphirotes que tu vas rentrer, tu vas être capable de refaire le même découpage. Tu refaire encore une fois, Chorma, Bina, Da, Tressek, Vora, Tiferet. Une fois, il y a un rave, quand j'étais à l'Yeshiva, qui a donné un exemple, je crois que je l'ai déjà dit au cours de Tania, qui a donné un exemple pour expliquer ce que ça veut dire. Comment on peut dire que Hatzilut, qui est le grand Yud, on a expliqué que Hatzilut, c'est le Yud d'Akadosh Baruch Hu, comment à l'intérieur de ce Yud-là, on a toutes les différentes. Je vais donner un exemple très simple. D'accord? Il me semble que je l'ai déjà donné au début du cours. Ça fait quelques années. Imaginez-vous qu'on prend une photo de toute la salle. Je prends une photo de toute la salle, et quand je regarde la photo, je vois qu'il y a le poteau qui est derrière Julien, qui est ici, qui est a priori à gauche de la salle. Donc quand le spectateur, je vais lui montrer, enfin celui qui va voir la photo, je vais lui dire où est le poteau, il va me dire, le poteau est à gauche de la salle. Très bien. Maintenant je prends une autre photo, et je vais faire un gros plan de la salle, un zoom, et je vais démarrer mon zoom à partir du poteau jusqu'au Rana Kodesh. Là le poteau il sera où? Il sera à droite ou à gauche?
À droite de la salle.
Il sera à droite de la salle, mais pourtant il était à gauche tout à l'heure.
Ah oui.
D'accord.
C'est pareil pour un livre.
Bien sûr. Pourtant il était à gauche. Comment il peut devenir à droite?
Par rapport à son contexte.
Très simple. Exactement, c'est que c'est relatif par rapport à son contexte. C'est la même manière par rapport à Yudke Vavke. Si tu prends l'intégralité du monde, tu prends l'intégralité de tout ce qui existe dans le monde, alors là effectivement tu vas découper ça en quatre grandes catégories. Yudke Vavke, Hatzilut, Gra, Yetzira, Asiya. Mais après quand tu fais un zoom, sur chacun de ces mondes, tu fais un zoom sur Hatzilut, ben tu vas retrouver la même chose. Chut. Tu vas faire un zoom, tu vas retrouver pareil, cette même microstructure. Tu vas retrouver un micro Yudke Vavke. Ensuite, tu vas prendre la Chorma même, tu vas prendre la Chorma de Hatzilut. Tu vas gratter à l'intérieur, tu vas retrouver encore cette même structure. Et c'est ça enfin, ça s'arrête jamais. Ce qu'on avait expliqué dans le chapitre 40, non, ça s'arrête jamais, puisqu'on peut aller sans fin. Dans chacun des niveaux, tu rentres et tu peux rentrer et chacun est composé de 10. Ça s'arrête jamais. C'est comme dans la science aujourd'hui. Tu vas prendre un élément, on va prendre cet élément-là, on va le décortiquer, on va retrouver différents éléments. Et ça s'arrête jamais. Ça veut dire, pour l'instant, l'élément le plus fin qu'on a trouvé, c'est le... Non, dans la matière.
Les quarks.
D'accord? Il n'y a pas plus que les quarks aujourd'hui? Depuis que tu as fait l'école, il y a eu des... Et ça va sans fin, ça s'arrête jamais. C'est pour ça qu'on voit dans le chapitre 40, on avait amené un texte de Daniel, prophète Daniel, qui dit que Akadosh Baruch Hu a un nombre défini. Akadosh Baruch Hu a un nombre défini de brigades, mais dans chacune des brigades, il y a un nombre infini de divisions. Enfin, je sais pas, les brigades, les divisions, c'est comme ça on dit. Il y a les brigades, les divisions, c'est ça?
Oui, les divisions et ensuite les brigades.
Non, c'est d'abord les divisions, d'abord les brigades.
D'abord les divisions.
Alors voilà, il y a un nombre défini de divisions, mais à l'intérieur, il y a un nombre infini de brigades. Comment il y a un nombre infini? Avec la logique que je viens d'expliquer. C'est que chacun des niveaux, tu le prends, tu peux le découper, tu peux le découper en 10. Toujours. Alors, voilà. Alors maintenant, je reviens à ce qu'il dit dans le mot d'Italia. Il dit ici que Malchut de Hatzilut,
c'est bien compliqué.
Ouais, c'est bien un peu compliqué. C'est pour ça qu'on a fait un tableau. Donc, puisqu'on a dit que dans Hatzilut, d'accord, B1, dans Hatzilut, on a également la même structure. D'accord. On a la même structure de Yudke Vavke. On a la même structure de Chorma, Binadat, Lemidot et la transmission. On est d'accord? Est-ce que vous me suivez? Puisqu'on a la même structure. Donc le Malchut, le dernier niveau de Hatsilut, va devenir le premier niveau de Bria. Pourquoi c'est très important dans la Gemara Zaken d'expliquer ça? Écoutez bien pourquoi c'est très important dans la Gemara Zaken d'expliquer ça. Parce que la Gemara Zaken ne veut pas qu'on fasse l'erreur. Ça, c'est quelque chose qu'on a dit la semaine dernière. Écoutez bien ce que je vais expliquer ici. Même si vous avez raté le train il y a 5 minutes, prenez-le maintenant. La Gemara Zaken ne veut pas qu'on pense que le pshat, le sens simple de la Torah, c'est une adaptation d'un concept qui est beaucoup plus élevé. Il y a des gens qui peuvent te dire, bon, en vérité, à Kadosh Baruch Hu, la Torah, c'est beaucoup plus élevé, mais Dieu a fait une adaptation. Entre l'adaptation et le projet original, il n'y a pas grand-chose à voir. C'est une adaptation, c'est une imitation.
Non, c'est la même.
D'accord ? Seconde, on aurait pu penser comme ça. Que c'est une imitation. C'est une imitation, mais qu'il n'y a pas le même sang qui coule. Il n'y a pas le même sang qui coule dans le pshat que dans le sod. On aurait pu penser comme ça. Et on a toutes les raisons de penser comme ça. Que c'est une imitation. Qu'à chacun des niveaux, tu as une imitation. Qu'est-ce que explique le Morazakan ? Il te dit non, ça ne marche pas comme ça. Il te dit que même le pshat, d'où il vient, il vient de la source initiale de la Shrina qui est la Chorma de Hatzilut. Puisque Chorma de Hatzilut, c'est elle qui va donner naissance à Malchut de Hatzilut, qui elle-même va devenir la Chorma du monde de Bria, etc. Ça veut dire que toujours, le dernier niveau du monde supérieur va devenir le premier niveau du monde inférieur. Donc ça veut dire que ce sera toujours le même sang qui coule. Bien sûr que ça va être adapté. Mais c'est le même sang qui coule. C'est pas que le monde d'en dessous il va essayer de s'adapter à quelque chose. C'est le même sang qui coule, puisque le dernier... C'est comme dans une chaîne. C'est comme dans un... Comment on appelle ça? Les maillons d'une chaîne. Ouais. Le dernier niveau du monde supérieur va devenir le premier niveau du monde inférieur.
Et c'est quoi le dernier niveau de Bragoa?
Pourquoi la Gemara Zaken veut expliquer ça? Pour expliquer la définition de Shrina. Que c'est la même Shrina, que même si nous, quand on va étudier le Pshat, on va croire que la Torah dit certaines choses. Tu vas étudier le Remes, tu vas croire que la Torah dit une autre chose. Le Drash encore une autre chose, et le Sod encore une autre chose. C'est le même sang qui coule partout. Pourquoi? Puisque le dernier niveau du monde supérieur devient le premier niveau du monde inférieur. Donc ils sont forcément imbriqués. C'est pas forcément qu'on va réussir à le voir, mais ils sont forcément imbriqués.
Alors c'est quoi la chose de Neshama de l'homme normal?
Oui.
Elle vient du même nous que le Neshama du grand Sadiq?
Non. Initialement. Oui, oui, bien sûr. C'est le même sang. C'est le même Neshama. Avechad le Kulana, on a pris dans le chapitre 33. Il y a un père pour tout le monde. On a tous le même sang qui coule. Et c'est pour ça qu'il avait expliqué là-bas, hein, quand une personne se demande comment je peux faire Avat Israël avec quelqu'un d'autre, même si l'autre personne est réellement plus basse que toi. Imaginez-vous que vous êtes sadique et vous voyez que l'autre est très très bas. Il a expliqué ce concept-là, que finalement on a tous le même sang. Seulement lui il est descendu plus bas et toi t'as eu la chance, t'as pas descendu aussi bas que ça. Ça. Donc le fait d'être un sadique, c'est un privilège, c'est une chance. Et si on utilise ça pour s'enorgueillir sur quelqu'un d'autre, on n'a rien compris. Parce que l'autre il est descendu plus bas que toi. Toi t'as eu la chance, ta Neshama elle est pas descendue tellement bas. Mais si c'est pour t'enorgueillir sur l'autre, t'as rien compris.
Donc, la
subdivision
est sur l'infini en fait.
Infini.
Mais quand on dit Shivim, pas Torah. Et comment ça se connecte ?
Alors, bonne question. Shivim panim la Torah, quand on dit Shivim panim la Torah, c'est à chacun, d'accord ? C'est dans chacun de ces niveaux. Ça veut dire, il y a Shivim panim au niveau du sol, Shivim panim au niveau du drash, Shivim panim au niveau du remède, Shivim panim au niveau du pshat. C'est-à-dire que même dans le pshat, t'as Shivim panim.
C'est limité,
ça reste ?
Limité quand même.
Oui. Et en passant, t'as Shivim panim, t'as aussi Shivim achor. C'est quoi le Shivim achor ? C'est quoi Shivim panim ? 70 faces.
70 faces.
Faces de la Torah. Il y a 70 manières comment il faut comprendre, et il y a également 70 manières comment on peut interpréter et qu'il ne faut pas comprendre. Oui, oui, mais encore une fois, avec le conseil qui veut expliquer à Edmond Razaken que dans chacun de ces niveaux-là, tu peux encore une fois, c'est-à-dire chacun de ces 70, tu peux le découper encore lui à 170. Ça ne s'arrête jamais. C'est ça la logique des Sifirot. C'est que cette subdivision ne s'arrêtera jamais. Dans les mots. Vegam Mishnah, Vegam Misham. On a. Alors, non. Je suis allé un peu vite dans les mots parce que bon. Vegam Misham, c'est où? Vegam Misham. Quelle heure il est, s'il vous plaît?
9h30.
Il est 9h30? Bon, c'est pas grave. Allez. Est-ce que tout est clair jusqu'à là? Est-ce que tout est clair jusqu'à là? Non, mais ne me dites pas oui, ils vont me faire plaisir. Est-ce que tout est clair jusqu'à là? Hein?
Est-ce d'accord. Qu'on peut toucher tous les 4 niveaux en même temps? Par exemple, si je fais un repas. Coup,
bah, si tu prends le pshat, t'as forcément les 4 en même temps.
Non, par exemple, si je peux avoir un niveau, par exemple, en mangeant, je sais pas, moi, faire une... On fait un repas d'Atsilou.
Oui, j'ai compris la question. Justement, ce qu'on va expliquer, c'est ça le but où on va arriver à la demande Zaken. C'est que lorsque moi je fais une mitzvah dans le monde de Asiya qui est à la chaîne de tout, donc qui est tout en bas de la chaîne, et que je dis que cette mitzvah va monter chez Akadosh Baruch Hu, donc pour monter chez Akadosh Baruch Hu, elle doit forcément faire tout le chemin. Mais ça veut dire que si elle arrive à faire tout le chemin, elle a plus de force que ce que les anges peuvent faire et ce que même les tzadikim peuvent faire. Tu vois ce que je veux dire? Bon, là c'est un autre sujet, ça on verra après, on va pas rentrer dedans, c'est déjà assez embrouillant comme ça. Alors, Vegam Misham, vous avez ouais. C'est au milieu de la page. Voilà, vous prenez le milieu de la page. Vegam Misham, hi a Mishnah chez les fanenu, chez hi alachot sukot. Donc de là-bas, donc du malchut de Bria, pareil. Donc le malchut de Atzilut va donner naissance au Chochma de Bria. Le Chochma de Bria, il y aura toute la structure de Bria. Ensuite, on aura le malchut de Bria qui lui va donner naissance au malchut de Yetira, troisième niveau. Et c'est de là-bas qu'on aura la Mishnah. Chez hi alachot sukot. Anim Shachot, Gamken, mais Chochma Binadash Shacha Baruchu. C'est là le point où il veut arriver. Il veut dire que même la Mishnah vient elle aussi de la Chochma de Hatsilou, du premier niveau. Ah, entre les deux, il y a eu Bria. C'est pas grave. Vous suivez? Même le troisième niveau est lié directement au premier niveau. Ah, il y a eu le deuxième niveau entre les deux. C'est pas grave. Puisque le dernier niveau du premier était le premier niveau du deuxième. D'accord, etc. Et le dernier niveau du deuxième était le premier niveau du premier, donc c'est une seule chaîne. Donc ils sont liés. C'est plus bas, mais ils sont liés. Rak, chez Prinat Chochma Binada Chem Tameh Alachot, Emelubashim Ognuzim Egouva Alachot. C'est le même sang qui coule, sauf que, quand on arrive au niveau de la Mishnah, les raisons de la Halacha sont cachées. C'est pour ça que quand on lit la Mishnah, on se dit, mais mince, pourquoi ils ont pas dit la raison? Et des fois, après, dans la Gemara, on va passer des jours et des jours et des pages à essayer de comprendre quelle était la raison de la Mishnah. Pourquoi elle a dit ça? Mais pourquoi ils l'ont pas dit clairement? Parce qu'au niveau de la Mishnah, on peut pas le dire clairement. Au niveau de la Mishnah, il faut que ça descende le plus bas possible. On n'est pas à un niveau où on peut expliquer. C'est pour ça que la Mishnah, c'est plus bas. La Mishnah, c'est descendu à un niveau qui est encore plus bas que la Gemara. Dans la Mishnah, les halachot sont cachés. Dans la Mishnah, la Gemara est cachée. Dans le Shulchan Aruch, la Gemara est aussi cachée. Vegoufé à la chot, chien du prinat gilouï, en hen a arat midotav, chien savoro prinat gilouï. Donc, au troisième niveau, ce qu'on voit, c'est uniquement les halachot. C'est quoi les halachot? Qu'est-ce qu'on a expliqué tout à l'heure? Les halachot, c'est les expressions des traits de caractère d'Akadosh Baruch Hu. Que moi, chenit ver, les elbechem à tikkunin, comme ce qu'on a expliqué au nom du tikkun ezohar. Des shit firan, mekalin bi yetira. Que au monde de yetira, donc troisième niveau, vous voyez, toute la chaîne s'imbrique maintenant. Donc, au monde de yetira, on retrouve les six firotes. C'est quoi les six firotes? Bon, là, on a le tableau ici. Chesed gvura tiferet, et sarod yesod. Ouais, quand on maintenant on retrouve tout le tableau, on retrouve une seule ligne dans le tableau. Shem derer klal, ça je vais aller vite parce que ça je l'explique à l'oral. Shem derer klal, shnei kavim. De manière générale, dans les sfirot, on a shnei kavim, ça veut dire deux directions, yamin ou smol, droite et gauche. Leakel, misitra de chesed, tout ce qui va nous pousser à être mekil. Donc lakula, kacher, patour, etc. Pardon. C'est lié au côté de Chesed. Zainu, ça veut dire les attirs chez Yuchal Alot et la chaîne. C'est pas simplement quand je me dis ça tu peux, ça tu peux pas. Mais pourquoi Dieu me dit que ça je peux, ça je peux pas? J'ai compris que moi je peux même. Pourquoi Dieu m'a demandé? C'est très simple, il te dit. Mais quand Dieu te dit que tu peux faire quelque chose, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu peux le faire, ça veut dire que Dieu a délié, moutard en hébreu, ça veut dire délié. Dieu a délié la chose pour qu'il dise quand tu fais cette mitzvah là, tu pourras monter chez moi. Ça peut monter chez moi. Olehmir. Ou d'un autre côté, tu veux dire ça c'est assourd. Ça c'est assour, ou sur ça on a une khumra, ou ça c'est khayav, ou ça c'est pasoul, etc. Comme tous les termes qu'on a pu donner. Que ça c'est de manière générale, on est du côté gauche. Qui dit quoi? Qui dit que, on interdit, donc Akadosh Baruch Hu ne veut pas qu'on monte. Il y a une fois, on raconte une histoire sur, une fois il y a un rave, on est venu lui amener un poulet. Il y avait une question sur un poulet, est-ce qu'il était kasher ou pas? Est-ce que la shrita était bien faite, etc. Et le rave a tranché, le poulet est kasher. Cacher. Alors après, il y a quelqu'un qui est venu le voir. Non, je pense pas que c'est l'histoire que tu connais, Jacob. Il y a quelqu'un qui est venu le voir et qui lui a dit, mais Rav, le Sifte Cohen, le commentaire du Sifte Cohen dans Shulchan Aruch, il dit le contraire. Le Sifte Cohen dans Shulchan Aruch, il dit le contraire. Comment vous pouvez être possèque la halakha contre le Sifte Cohen? Bon, alors le Rav, bien sûr qu'il avait ses raisons, mais il a répondu en plaisantant à cette personne. Il a dit, écoute, je vais t'expliquer quelque chose. Quand je vais arriver dans le ciel, tu vois ce poulet. Si je dis qu'il est cachère, ce poulet va venir me poser des questions. Il va me dire pourquoi tu m'as rendu pas soumis. J'étais cachère. Dis d'un autre côté, si je dis que le poulet est cachère, le poulet il me laissera tranquille, mais qui c'est qui va me prendre la tête dans le ciel? C'est le Sifte Cohen. Il va me dire mais pourquoi t'as dit cachère? Moi je dis que c'est pas saoul. Il a dit je préfère traiter avec le Cité Cohen qu'avec un poulet dans le film. C'est une plaisanterie bien sûr. Il avait ses raisons pourquoi il n'a pas fait la halakha comme le char. Mais ce qui veut être comme le Cité Cohen, c'est pour dire quoi hein? Pour expliquer ce que je suis en train de dire ici, que quand on dit qu'un poulet est cachère ou qu'un poulet n'est pas cachère, la Gemara dans Yerushalmi, dans le traité de Trumot de Yerushalmi, elle dit « Keshem sha'asur leta'er et tatame, kachasur leta'er et tata'or ». De la même manière qu'on n'a pas le droit de purifier ce qui est impur, de la même manière on n'a pas le droit d'impurifier ce qui est pur. Pourquoi? Parce que bon, c'est pas que tu veux dire « Bon, ben, je me prends pas la tête, j'ai rien à faire, je préfère ne pas manger, comme ça moi je suis tranquille ». Pas du tout. Parce que si tu manges pas quelque chose, ça veut dire que tu empêches les étincelles qui se trouvent dans cet objet de monter chaque Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça que le Rav, il peut dire facilement pas saoul. Des fois, c'est pour ça que des fois dans la Gemara on passe des heures sur des petits détails. C'est permis, interdit, mais attends, ça vaut 20 centimes, qu'est-ce que tu prends la tête? C'est rien du tout, tu jettes et c'est tout. Ça vaut rien. Non. On fait tout pour ne pas jeter. Pourquoi? Que ça nous dérange, que ça te dérange. Tu perds plus de temps à dévolver si c'est caché ou pas. Que tu prends la tête. La réponse est là. Parce que quand on décrète que quelque chose est interdit, ça veut dire qu'on décrète que dedans, il n'y a aucune étincelle qui peut monter chaque adage banco. Et s'il y avait une étincelle qui peut monter chaque adage banco? D'accord? Imaginez les gilgous qu'elle doit refaire. Il faudra qu'elle se décompose. Qu'elle repasse dans la terre, qu'on replante, etc. Il faudra qu'elle repasse toute la chaîne. Elle a fait des efforts, cette étincelle, pour arriver jusqu'à ton verre, jusqu'à devant toi. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu dis non, je prends pas, je le jette.
Alors jeter la nourriture, ça peut être très grave.
Bien sûr.
Alors pourquoi on dit alors, quand tu manges, tu vas pas finir par la
sieste? C'est une bonne question, j'ai pas de réponse à cette question. Je me suis toujours posé cette question.
Mais pourquoi il y en a quand ils
boivent? Sérieusement. Quoi?
Oui, parce que si t'as bien de boire d'un seul trait un verre.
Dis qu'il faut pas jamais manger, il faut toujours laisser un petit peu. Parce que tu laisses alors.
Je parle d'un verre.
Il faut dire qu'on est obligé de dire que Akadash Baruch a prévu que dans ça il n'y a pas l'étincelle.
Ouais,
à la limite, c'est la seule réponse qu'on peut donner. Je veux dire, les étincelles, elles sont dans le départ. Il te dit qu'elles sont réparties de manière
homogène.
Homothétique.
Et qui n'y a pas la bracha, donc les étincelles, qu'est-ce que deviennent?
Quoi?
Quelqu'un qui n'a pas la bracha pour manger.
S'il n'y a pas
de bracha. Il y avait des étincelles dans ce plat, la personne ne fait pas la bracha et elle le mange.
Des fois, il suffit qu'un juif les a mangés, c'est déjà bon.
Oh là là.
Il suffit qu'un juif les ait mangés, c'est bon.
Ouais. Il suffit qu'un juif les a mangés.
Même s'il fait pas la bracha.
Même s'il fait la bracha.
Il n'a pas élevé pour
ça. Il n'a pas fait au top, mais il l'a fait.
Il n'a pas élevé du tout.
Je veux dire plus que ça. Le Baal Shem Tov, il dit que le fait juste qu'un juif, il passe par un endroit. Même si au moment où il passe par cet endroit, il a des pensées négatives, il est en train de penser à une avéra, tout ce que tu veux, le fait qu'un juif avec sa neshama est passé dans un endroit, ça peut faire monter aussi l'étincelle de Kadosh Baruch Hu, l'étincelle de l'endroit. C'est-à-dire qu'il y a des paramètres qu'on ne contrôle pas. Bien sûr qu'on ne maîtrise pas.
Bah.
Tu comprends? Donc quand tu viens, tu dis un poulet est assour. Assour en hébreu, ça veut dire quoi? Assour. Assour, ça veut dire bêta assourim en hébreu, c'est une prison. C'est-à-dire que tu l'emprisonnes, tu dis que l'étincelle qu'il y a dedans, elle est emprisonnée, et tant que Majer Levenbal, elle pourra pas sortir. Quand tu dis moutard, moutard en hébreu ça veut dire quoi? C'est-à-dire délié. C'est-à-dire que l'étincelle qu'il y a dedans, tu fais la bracha, elle peut monter chaque année sur un coup. Vous imaginez les enjeux quand on dit moutard et assour? C'est énorme.
Donc celui qui fait une rumra, il faut qu'il fasse attention.
Bien sûr.
Une quoi?
Rumra. Il pouvait pas s'empêcher.
Non, il arrive.
Hein?
Rumra.
Celui qui fait une rumra dans le cadre de la halakha, c'est une chose. D'accord? Quand c'est une trombra qui n'est pas dans le cadre de la halakha, c'est pas bon?
C'est pas un zien qui fait ça.
Tu comprends? Véakol, Alpi, quelle heure il est, s'il vous plaît?
Mais moi je fais les bras dans le
monde. Où on est? Où on est dans les.
37.
Allez.
Véakol, je voulais un peu.
Alors, bon, je vais aller un peu vite, comme ça on va finir le chapitre.
Tout n'augmente pas aujourd'hui, ça va.
Allez, messieurs, je vais aller un peu, parce que sinon, pour se remettre dans le sujet, ça prendra plus de temps la semaine prochaine, enfin, dans deux semaines. La semaine prochaine, c'est quand, Shavuot?
Non,
la semaine prochaine. Mardi soir, d'accord. Ah, je t'explique. Nouveau venu au cours de Tania, il n'y a ni Coupe du Monde, ni match de rugby, ni rien. C'est le contenu qui passe avant.
Donc ça veut dire que... Donc ça veut dire que dans le roumage,
oui.
Il contient les trois autres niveaux.
Bien sûr. Non, il contient. Oui, il contient, c'est-à-dire que pour arriver là, on a dû passer par les trois niveaux. Bon, mais on a dû passer par les trois niveaux. Bon, mais si on va pas se perdre, on va faire encore quelques lignes et on s'arrête. D'accord? Alors, bien sûr qu'on a du mal. C'est pour ça que j'ai mis dans le tableau, sinon on n'aurait pas compris.
Non, mais on a du mal, c'est-à-dire que pour aller au Chumash, on passe par les autres.
Vous m'avez pas laissé encore arriver au Pshat, pour l'instant on est encore à la Mishnah. Hein, ça arrêtait à la Mishnah pour l'instant. Alors on va avancer quelques lignes. On finira peut-être un peu plus tard qu'au moins 4, peut-être à moins 10, moins 5. Alors, comme ça on finit.
Ah là là, il s'est sorti, il était dehors.
Alors, Véacol, vous avez Véacol ?
Voilà.
Oui. Véacol alpi chochmaïla. Véacol alpi chochmaïla d'Atilot. Donc on est 7 lignes avant la fin de la page. Allez messieurs, dernière ligne droite. Véacol alpi chochmaïla d'Atilot. Mais encore une fois, qu'est-ce qu'il dit la Mourazaken ? Que le remez, la halakha, etc. Donc le chesed et gvoura, tout ce qu'on vient d'expliquer, d'où ça vient ? Alpi chochmaïla d'Atilot. Ça vient directement de la chochma d'Atilot. Ah, il y a eu Bria entre temps. C'est pas grave, ce qu'on vient d'expliquer ici. Qui pétor koulan, meloubachot, chorma binada d'atzilut, chi or en sof, meyouchat ben betachlit aïroud. Que Akadosh Baruch Hu, la lumière infinie d'Akadosh Baruch Hu est liée au premier niveau d'atzilut. Et ce premier niveau d'atzilut, c'est lui qui va descendre, et c'est lui qui va devenir à chaque fois avec la dynamique qu'on a expliqué, dernier niveau, premier niveau. Donc ça veut dire que chorma d'atzilut, c'est lui qui va descendre jusqu'à tout en bas. Ça veut dire que dans ce qu'on a le plus bas possible, il est lié à Chochma d'Atzilut, et Chochma d'Atzilut, lui, il est lié à qui ? Il est lié directement à l'infini suprême qui est à Kadosh Baruch Hu. Qui betor kou, donc, vechen bederze, yarda shrina venitlapsha, beochal kodesh kadashim d'Asiya. Avec ça, on peut expliquer comment la shrina a pu descendre, et la shrina a pu s'habiller dans le kodesh kadashim, dans le saint des saints qui était a priori une demeure physique. Donc si c'est une demeure physique, d'accord, c'est lié, c'est pas un concept intellectuel, c'est même pas un trait de caractère, c'est un concept physique. Donc c'est lié à quel monde ? C'est lié au monde de... C'est lié au monde d'Atzilut. Asiya ! D'accord ? Et pourtant, le Kodesh Kodashim était dans le monde d'Asiya, comment c'est possible ? Comment c'est possible que Kodesh Kodashim était dans le monde d'Asiya ? Et c'est très simple. Et tu dis parce que c'est le même sang qui coule jusqu'en bas. Bien sûr que le Kodesh Kodashim au niveau tout en haut, au niveau du Sod, si on le perçoit au niveau du Sod, il est plus fort. Mais c'est le même sang. Donc c'est pour ça que le Kodesh Kodashim, c'est le même Kodesh Kodashim qui est en haut. C'est la même chose. C'est pas une adaptation, c'est pas une imitation. C'est pas, des fois on fait une imitation comme ça en miniature. D'accord ? C'est pas une imitation, c'est le même sens, sauf qu'il a été adapté pour nous, il a été adapté pour les hommes. Vechol olam migimel olamot elu. Là donc ce que j'ai dit à Yves tout à l'heure. Vechol olam migimel olamot elu, mitralek lirvavot madrigot. Trois lignes avant la fin. Chacun de ces trois mondes-là, il va se séparer, l'irvavot madrigot, ça veut dire un nombre infini de niveaux. Anikrot, Gamken et Alamot Pratim, qui eux aussi vont être appelés des mondes. Donc on appelait ça les sous-divisions, les subdivisions à l'infini. D'accord ? Ou Malchut de Atzilut, Melou Beshot de Malchut shel Kol Olam. Et ça sera toujours, Malchut de Atzilut, ça sera toujours ce même sens, c'est lui qui enverra à tout le monde. En passant dans la note, il dit, vous prenez la note, une ligne, ou Bazei Yuval Hashanakatouf, Malchutra Malchut Kol Olamim. Qu'est-ce qu'on est tous les matins et tous les midis ? On dit Malchutra Malchut Kol Olamim, que la Malchut d'Akadosh Baruch Hu, c'est la royauté de tous les mondes. Ça veut dire quoi ? C'est Mordechai qui dit très simple. C'est quoi Malchut ? De quelle Malchut on parle ? On parle de Malchut d'Atzilut. La première Malchut, la Malchut du premier monde. Et qu'est-ce qu'on te dit ? Cette Malchut-là, c'est elle la Malchut qui va alimenter tous les mondes. Et même si tu crois qu'on va passer par des mondes et des mondes et des mondes, mais c'est le même sang qui va couler. Donc finalement, d'où ils viennent tous ? Malchut d'Atzilut. Donc Malchutra. Ta malchut akadosh bauchu, malchut de Asilus, malchut kol olamim, c'est elle la royauté de tous les mondes. Malchutra malchut kol olamim.
D'accord, mais dans le bien, ça descend, mais dans le mal, ça remonte pas.
Attends, on n'est pas arrivé au mal encore, on est dans le bien.
Non, je veux savoir.
Bien sûr que dans le mal, ça descend.
Sahara, il n'y aura pas chez Asilus.
Par rapport au...
Au monde. Nous, on est au monde Asiya.
Oui.
On a tous les trucs qu'ils n'ont pas de Asilus.
Que eux, ils n'ont pas ?
Il n'y a pas dans le monde Asilus.
Bien sûr, oui, j'ai compris. Excuse-moi, je pense qu'il faudrait formuler ta question différemment. Ouais. La question que tu dois formuler, c'est d'où le mal a été créé. Est-ce que le mal est également une manière d'exprimer... Est-ce que le mal vient également de Chochma d'Atzilut ? C'est ça la question. Tu veux
dire.
C'est ta question. Ça, c'est autre chose. La réponse est non. Et tu veux savoir la vraie réponse ? La vraie réponse, c'est que le mal vient d'un niveau encore plus haut que Chochma d'Atzilut.
C'est ça, parce que là, on est dans le Giloui, là, c'est ça, hein ?
J'ai peur, hein ?
Plus haut.
Plus haut encore. Parce que sinon, ils n'auraient pas pu descendre tellement bas.
Il faut une force.
La seule raison pour laquelle on te dit que quelque chose de mal est mauvais, c'est parce que Dieu t'a interdit de te chercher l'essentiel qu'il y a dedans. Il dit, c'est pas pour toi. Tant qu'on cherche, n'est pas là, tu peux pas le chercher. C'est pas pour toi.
Quoi, que quelque chose est mauvais ?
Oui. Le cochon, qu'est-ce que dit la Gemara ? La Gemara dit, à titre azir, l'itaer. Quand tu vas chercher revenir, le cochon va être éternel. va être purifié. Comment il va être purifié? C'est quoi cette histoire?
J'ai mal dos aussi. Non
d'accord. Comment il va être purifié?
Avec le cheese.
Ouais. C'est que quand Vacher va venir, Akadosh Baruch va délier les étincelles qui se trouvent dans le cochon. Donc il va nous permettre d'y accéder.
Vous n'êtes pas abusé.
Et le Sunday.
Comprends? À qui traduire les terres? Ah. Bon, allez, on y va.
Tu vois?
Vous n'êtes
pas abusé quand même.
Messieurs, venez, on finit encore quelques lignes. Comme ça, on finit. Bah, on va se rattacher. Bon, j'ai lu très vite, mais je peux vous dire que dans tous les mots qu'on a lus, il y a des pirouchim et des pirouchim et des pirouchim, mais j'ai essayé de simplifier au maximum. D'accord? Non, ça veut dire que si un jour vous avez du temps, prenez avec les commentaires, je peux vous dire que ça va au sol. Là, on a fait le pshat du chapitre 52. Alors, de Malchut, Shelkol Olam Prati, Yoredet ou Mitla Beshat Bechal Kodesh Kodashim, Shi Chabat, Shibe Olam, Shel Matam, Yemenu, Benriga. Donc, c'est la dynamique qu'on a expliquée, que le Chochma Binada du monde inférieur est en vérité le Malchut du monde supérieur. Vine, mais Ashri, Nam, Lubeshad, Bechal, Kodesh, Kodashim, Shelkololam, Veolam, Klali, Uprati, Nimshach, Umit, Pachet, Mimena, Or, Vechayut, Chola, Olam, Vabrouim, Shebo. Rappelez-vous. Qu'est-ce qu'on avait expliqué dans l'exemple humain, dans l'exemple de l'homme? On avait expliqué que le cerveau, c'est lui qui distribue et c'est lui qui envoie l'énergie à tous les membres du corps. C'est le centre nerveux, on l'appelle bien le centre nerveux. C'est-à-dire, c'est pas simplement un terminal. C'est pas simplement un terminal qui va centraliser l'énergie, qui après il dit, bon, toi je donne ci, toi je donne ça. On avait expliqué longuement que la source de l'énergie, le centre nerveux, la source nerveuse du corps, c'est le cerveau.
C'est la centrale.
D'accord, c'est la centrale. Et là, ce que Morazaken va dire, c'est que de la même manière, deux secondes, Morazaken va expliquer que dans chacun de ces quatre mondes, Atsilut, Briya, Yetzir, Asiya, on a toujours une centrale. Ça veut dire, par exemple, au niveau du Sod, on aura une centrale. Au niveau du Dras, de l'Agmara, on aura une centrale. Deux secondes, au niveau du Remez, on aura une centrale. Au niveau du Pshat, on aura aussi une centrale. C'est quoi la centrale? La centrale, c'est la méthode avec laquelle on étudie. D'accord? On voit que, par exemple, dans le Chumash, il y a une méthode comment on utilise le Chumash. Dans la Halakha, il y a une méthode comment on fait la Halakha. Dans la Gemara, il y a une méthode comment la Gemara travaille. Dans le Sod, il y a également une méthode comment on travaille. C'est quoi ces méthodes? Ces méthodes, c'est le centre nerveux. C'est elles qui vont donner naissance à toutes les nuances qu'il va avoir dans chacun de ces quatre mondes, Yud, Kev, Avke, Atzilut, Vayetzir, Asiya. Ou mitpachet mimena, si vous n'avez pas compris ce point, c'est pas grave. Ou mitpachet mimena, or vechayut, lechol haolam vabruim, shebo neshamot malachim, ki kulam nivreu ba'asara mamarot, ça sera encore plus compliqué, ki kulam nivreu ba'asara mamarot, shebe maase bereshit, shem dvar Hashem anikra b'shem shrina. Alors il a, en une ligne, il a dit quelque chose que on va devoir faire par la suite, Bezrat Hashem, une fois qu'on aura fini les 53 chapitres du Tania, on devra faire Shar Echut Ve'emuna, d'accord, qui parle donc des notions de Emuna. Pour expliquer cette dernière ligne qu'on vient de dire ici. Je vais vous dire en gros ce qu'il dit dans cette dernière ligne. Dans cette dernière ligne qu'il est en train d'expliquer ici de Morazaken, il dit que quand on dit que le monde, on vient de l'apprendre d'Ashgacha Pratit dans le 5e chapitre de Pirkei Avot, on a appris que Ba'asara Mamarot Nivra Olam, le monde a été créé avec 10 paroles. D'accord? C'est vrai que le monde a été créé avec 10 paroles. C'est pas cette histoire que le monde a été créé avec 10 paroles. Alors, dans Shah Ruzaimuna, il va expliquer longuement. D'accord, mais je peux pas tout expliquer maintenant, mais au moins je peux expliquer en gros que l'Admor HaZaken va expliquer là-bas qu'avec la parole d'Akadosh Baruch Hu, on a créé Chochma d'Atzilut. C'est ce qu'on appelle la parole d'Akadosh Baruch Hu. La parole d'Akadosh Baruch Hu, elle s'est arrêtée au niveau de Chochma d'Atzilut, c'est-à-dire le plus haut niveau de Atzilut, donc B1 dans le tableau. Et ensuite, il explique là-bas comment c'est ce Chochma d'Atzilut et cette parole d'Akadosh Baruch Hu qui elle Avec ces combinaisons qu'on va trouver dans les Asara Mamarot, il va expliquer longuement là-bas comment avec les combinaisons des mots et des lettres et la gematria, etc. Tout, c'est extraordinaire ce qu'on va expliquer après Bezrat Hashem dans Shachar Ve'emouna. Il va expliquer énormément de choses, la gematria, les valeurs numériques, etc. Et il va expliquer comment tout ça, c'est ça ce qui crée l'humanité. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à la base, les Asara Mamarot, les 10 paroles de la Kadosh Baruch Hu, c'est à quel niveau? Chochma d'Atzilut. C'est d'ici. Tout le monde, toute l'humanité a été créée avec Chochma d'Atzilut. Même si nous on voit, je dis, mais attends, comment tu me dis, mais mon enfant, c'est moi qui l'ai créé, c'est pas Chochma d'Atzilut, c'est quoi cette histoire? Mais non, parce que qui c'est que t'as créé à toi? C'est un parent. Quand on monte, on arrive où? Le même sang, on arrive où? Chochma d'Atzilut. Et c'est avec ça qu'on explique que Ba'asara Mamarot Nivra Olam, que le monde a été créé avec 10 paroles, et le monde continue à être créé avec 10 paroles. Mais ça, c'est une leçon qu'on expliquera à Bezrat Hashem très longuement, en 12 chapitres. D'accord? Deux secondes. C'est ce qu'on expliquera à Bezrat Hashem très longuement, dans le chat, dans le chat, dans le chat. En tout cas, ce qu'on a essayé de développer aujourd'hui, c'est la notion des quatre mondes, la notion des quatre couches dans la Torah, Sod, Drash, Remez, Pshat, et la notion des Sphirot, donc Chorma, Binadat, les traits de caractère et la transmission, et on a expliqué comment tous ces quatre niveaux s'imbriquaient les uns dans les autres, d'accord, et comment finalement, c'est quoi la Shrina? La Shrina finalement, donc si je prends mon tableau, la Shrina c'est B1, il va faire tout le tableau. Et des fois dans Excel, comme ça on veut prendre tout le tableau, tu touches la case d'en haut, tu prends tout. Oui. C'est quoi la Chorma d'Atilut? C'est B1 qui prend tout. Chorma d'Atilut qui prend tout. Ce qu'on a expliqué aujourd'hui. Je vous conseille de prendre ce tableau et d'essayer de le relire. Si vous avez des questions, c'est avec grand plaisir.
Quand tu parles de la création qui s'est faite à partir de Chorma d'Atilut...
Attends, deux secondes, d'accord. Est-ce que c'était plus clair? Rassurez-moi.
C'est clair.
Quand j'ai pas de réponse, c'est comment?
Hein? Très clair.
Hein? Moins clair, plus clair?
Plus clair.
Hein? Bon, Yacob, ta question.
Lorsqu'on dit que tout le monde est décrit à partir d'un plan de la
vie,
ce que je veux dire, quoi, le monde physique et chaque individu dans l'humanité.
Tout, toute l'humanité. Le Gan Eden, tout.
Là, on a vu
tout ce qui rentre dans la définition de création. Donc tout ce qui n'est. Oui.
La semaine dernière, on avait vu deux autres différences. Giloui.
Oui.
Et
Chorma d'Atzilut, c'est déjà Giloui. C'est le début du Giloui.
Voilà, c'est le début du Giloui.
Oui.
C'est quoi le SM de l'autre monde là? Alors,
c'est quoi?
Tout a été créé à partir de Gilut. SM c'est quoi de l'autre monde?
SM c'est le fait qu'on vit. C'est le fait qu'on existe.
C'est tout.
C'est tout. Et ça, ben, toute l'humanité existe.
Non, ça c'est la volonté d'Hachem, ça.
Oui.
La volonté d'Hachem, on dit c'est tout.
C'est pas lié au comportement de qui que ce soit, etc. Voilà. On s'arrête ici.